Merci Tiffaine, bon week-end. Au programme aujourd'hui, écoute active et poésie debout avec les commissaires Éric Mangion et Patricio Peterlini qui libèrent les voix de la poésie sonore au Palais de Tokyo et Franck Lebovici et Edouard Escoffette qui portent la leur.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h.
Ayant voulu donc sortir en 55, compte tenu du contexte de l'époque, de la poésie à ce moment-là, de la créativité poétique, j'entends, de ce qui se manifestait, j'ai voulu vraiment, et surtout après avoir publié un petit livre chez Segers, sitôt dit, qui a été repris dans le livre de Aldant, le premier. J'ai vu ce que c'était que la circulation de la poésie, absolument nulle, n'est-ce pas ? C'était lu par trois copains, et je me suis dit, si on y croit encore un petit peu, si on veut persévérer dans cette direction, il faut vraiment changer les choses complètement. Alors, le poème-là, bon, il était sur la page, au fond d'un livre, attendant un lecteur qui devenait de plus en plus hypothétique, c'est évident. Donc, il est passif, il faut le rendre actif. Et pour le rendre actif, il fallait le sortir du livre. Alors, c'est ce à quoi je me suis évertué dans ces poèmes partitions. Le terme même de poème partition ayant cette signification, puisque pour la musique, l'œuvre musicale se trouve inscrite sur du papier en tant que partition, mais elle n'existe réellement, sauf pour un musicien qui est capable de lire normalement une partition, mais sinon elle n'existe réellement que lorsqu'elle est jouée. Donc le terme de poème partition signifiait, si vous voulez, que le poème était sur le papier, était inscrit en tant que partition, mais que le poème lui-même n'existait réellement qu'à partir du moment où il devait être dit à haute voix.
Patricio Peterlini, Éric Mangion, Franck Lebovici et Edouard Escoffette, bienvenue à tous les quatre. Italie, France, États-Unis, Catalogne, les langues se mélangent et s'émancipent autant que possible aujourd'hui, sans interprète, mais on va probablement s'en débrouiller puisqu'il s'agit aujourd'hui surtout de tendre l'oreille et l'espace, c'est ce à quoi invite l'exposition dont vous êtes Éric Mangion et Patricio Peterlini, les commissaires au Palais de Tokyo à Paris. Au programme, plus de 70 poèmes et extraits de poèmes sonores mis en espace et même d'une certaine façon en images. Il y a là les œuvres et les voix historiques, Henri Chopin, Isidore Isou, Mimmo Rotella, Brian Gysin, Gerasim Luca, Bernard Haitzik, dont on vient juste d'entendre la voix, mais aussi bien sûr l'histoire qui continue ici et partout, Michel Mettel, Anne-James Chaton, Anne Le Trotter, John Giorno, Violaine Lochu, Jérôme Gamme, Edouard Escoffette et Franck Lebovici ici présents tous les deux. Titre donc de cette exposition, La Voix Libérée, un titre qui place d'emblée la poésie sonore sous le signe de l'émancipation, qui serait, j'imagine, la constante de la poésie sonore. De quelle libération parle-t-on, Éric Mangion ou Patricio Peterlini ou Franck Lebovici? Je ne vais pas le dire, j'imagine, à chaque fois, donc prends la parole qui veut. Patricio Peterlini.
La poésie se libère au début de la linéarité et de la litre, comme a dit Isaac dans l'interview. Dans ce dégagement du rythme et de la rime, arrive à des autres espaces, à découvrir des espaces nouveaux, et avec la poésie sonore, des espaces qui sont des espaces vocaux, sonores, où les mots se déconstruisent, et là ouvre la possibilité de libérer les mots et la langue de la nationalité pour arriver à quelque chose de qui est surnational, international, c'est-à-dire quelque chose qui est compréhensible à tous sans dire rien.
C'est ce dont on va se rendre compte pas plus tard que tout de suite. Éric Mangion, si on entend bien ce que disait Bernard Haitzik, alors évidemment, il faut le replacer dans son contexte. Alors là, il était au micro de Pascal Casanova sur France Culture, c'était il y a tout juste 10 ans. Mais ce dont il parle, c'est des tout débuts, c'est-à-dire en 55, au moment des poèmes partitions. Mais la question de la poésie sonore en France et ailleurs. C'est d'abord une question de diffusion ou d'abord une question de langage.
C'est ce que dit pas Bernard Hetzig dans ce petit passage, c'est qu'effectivement, comme beaucoup d'artistes de sa génération, mais avant lui aussi, c'était se libérer du livre, de la page.
Ça ne veut pas dire en finir avec le livre.
Non, pas tout à fait, parce qu'effectivement, comme je disais, il écrivait des partitions qui étaient publiées, notamment chez Al Dante, un éditeur de poésie. Mais sortir du livre, lui, Bernard disait aussi mettre la poésie debout, c'est-à-dire la rendre publique. Le performeur, le poète, prend une position.
Ça, c'est ce qu'il a appelé la poésie action aussi. Hein. C'est ce qui vient après. Donc c'est comme ça qu'il glisse de la poésie sonore à la poésie action.
C'est une poésie qui sort du livre, c'est une poésie qui est une action. Mais ce qu'il ne dit pas dans ce court entretien, c'est que c'est aussi une poésie sonore. Et à l'époque, justement, en 1955, lui et ses amis allaient très souvent à l'époque au domaine musical et écoutaient les musiciens de leur époque, notamment la musique concrète. Et ils ont fait ce lien entre les sons extérieurs, les sons d'instruments soit traditionnels, soit d'instruments nouveaux, et ils l'ont mélangé à leurs propres mots, à leur propre sonorité et à leur corps. Et ça, c'est vraiment la révolution de la poésie sonore, qui avant était uniquement phonétique, et qui, avec cette génération dans les années 50, et notamment grâce au progrès des appareils d'enregistrement et aux nouvelles technologies de l'époque, tout ça s'est mélangé pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui la poésie sonore.
Vous placez, vous, d'emblée l'exposition au Palais de Tokyo, et on va évidemment parler de ce que suppose la question de l'exposition dès lors qu'on parle de poésie sonore. Vous parlez de libération, vous parlez donc d'émancipation. Dans le texte de présentation, vous parlez d'une forme d'héroïsme quant à ses débuts, en tout cas de la poésie sonore. Qu'est-ce qu'il en resterait aujourd'hui de tout ce discours, alors qui est vraiment dans la lignée d'un discours moderniste, mais qu'est-ce qui resterait de cet héroïsme-là aujourd'hui?
Aujourd'hui, dans les années 2000-2010, on n'est plus du tout dans les logiques d'avant-garde et des utopies des avant-gardes, parce que les temps ont évidemment changé, mais quand même, compte tenu de l'actualité, de l'espèce de formatage du langage, de l'avancée, du progrès permanent des nouvelles technologies et de tout ce qui se passe aussi dans le monde, cette résistance au langage sémantique traditionnel n'est plus un héroïsme comme il y a 100 ans, mais toujours une forme, disons, sans employer de grands mots, une forme de dissidence aussi.
Vous parlez de poésie sonore, vous sous-titrez même l'exposition Poésie sonore, avec tout ce que ça peut comporter, ma foi, parfois d'instable, ou de compliqué, ou de confus, une espèce de grande marmite dans laquelle on met tout un tas de choses. On parlait de poésie-action tout à l'heure, vous avez parlé évidemment de poésie phonétique, qui serait une sorte de préhistoire de la poésie sonore, mais tout ça a été également recouvert par la performance, mélangé à plus ou moins bon escient avec les lectures, la lecture à voix haute, la voix enregistrée, la poésie orale, la poésie filmée, donc... Tout ça est un peu confus, et beaucoup moins dans les choix que vous avez faits. Ce qu'on y entend, par exemple, au Palais de Tokyo, ben, ça peut être ça. Mais tout aussi bien ça.
Le pas, pas, le faux pas. Le pas, 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 le pas, le mot, le mauve. Le mauvais pas, 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 le pas, le papa. Le mauvais papa, le mauve. Le pas, 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 passe. Papa passe. Passe, passe, il passe, il pa, pa, il passe, le pas du pas du pape sur le pape du pas du passe, 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 passe le sur le pas, le passi, 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 pisse sur le pape, sur papa, sur la pipe du papa du pape, pisse en masse, passe, passe, passi. Passe, passe, la passe, la basse. Passe, 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 la passion, passion, basse.
Ou encore ça.
Voci limpide, sane, voci invadenti, voci perdenti.
Alors, ce qu'on a respectivement entendu, c'est Violaine Lochu pour un poème de 2016, Gerasim Luca, passionnément, ça on est en 73, et puis Giovanni Fontana en 99. De quoi parle-t-on au fond quand on parle de poésie sonore, Éric Mongion?
On parle de beaucoup de choses, c'est-à-dire que chaque poète sonore a son univers qui est propre, hein, qui ne sont pas les mêmes, hein, d'ailleurs. Et comme vous le disiez très justement, Gerasim Luca a une identité très forte. Il n'était pas que poète sonore, il a fait un peu de poésie sonore dans sa vie, mais il était poète au sens large, écrivain, comme Violaine Lochu, et elle est poète sonore, mais elle est surtout plasticienne. Et il y a très peu, en fait, de poètes qui ne sont que sonores. Et c'est ça qui est intéressant, et de quoi il parle. Il parle de multiples choses, ça dépend des uns et des autres. Et Doris Coffet a un univers très particulier qui est lié aussi à sa culture, à sa ville, Barcelone, à son univers, à sa jeunesse. Donc on parle de différentes choses. Mais il y a juste, bon, il y a un point commun, c'est d'utiliser des sons, des enregistrements, de la superposition, avec des techniques très différentes et des techniques qui évoluent chaque année, parce que depuis les années 50, évidemment, on a oublié, la bande magnétique n'existe plus, mais on est passé au numérique, donc les techniques changent. Mais ce qui est commun au-delà des techniques et des sons, c'est cette chose absolument incroyable, c'est que la poésie sonore est à la fois un langage primitif, c'est-à-dire une espèce de langage avant le langage, qu'on ne connaît pas, hein, c'est un fantasme, mais ce qu'on imagine tous, effectivement, ce langage avant la construction des mots, de la sémantique. Mais en même temps, ce qui est très paradoxal et très particulier, c'est que c'est aussi le dépassement du langage. C'est-à-dire que c'est un paradoxe qui va vers le passé fantasmé du langage avant langage, mais en même temps avec, comme on l'a entendu il y a quelques minutes, avec les techniques et les technologies, c'est-à-dire que le son remplacerait, je parle au conditionnel, hein, remplacerait le langage sémantique qui est le nôtre. Voilà.
Peut-être que Édouard Descoffettes se placerait à cette jonction-là, si vous voulez bien nous faire entendre l'un de ses poèmes.
Com comença un fil? Com comença si el tens un fil? Com comença si el tens un fil que es repeteix? Com comença si el tens i el veus un fil que es repeteix? Com comença si el tens i el veus un fil que es repeteix en tu? Com comença si el tens i el veus llumenllar un fil que es repeteix en tu? Com comença si el tens i el veus llumenllar un fil que es repeteix en tu després? Com comença si el tens i el veus inútil llumenllar un fil que es repeteix en tu després? Com comença si el tens i el veus inútil llumenllar un fil que es repeteix en tu present després? Com començar i temptar de nou la fi.
Merci. Merci beaucoup. Patricio Peterlini, peut-être, alors je ne sais même pas s'il faudrait nous éclairer sur ce qu'on vient d'entendre ou simplement s'en tenir précisément à ce qu'on vient d'entendre.
Oui.
Un poema breve si ripete soltanto come cominciare e poi una frase che si allunga fino a che muore.
Oui, c'est un bref poème et basé sur la répétition du mot d'une phrase qui au début c'est très court et devient longue petit à petit en se répétant.
Beh, c'è un lavoro sulla ripetizione che nel mio caso è molto importante, mm-hmm. che viene da una parte da Bernard Herrmann, ovviamente, e poi
voilà,
anche
da, dit che
musica
techno. Dans la répétition, il y a un lien avec notamment Bernard Herrmann, c'est-à-dire la poésie sonore de Bernard Herrmann, mais aussi la musique techno en particulier, que c'est la musique qu'il a écouté quand il était jeune.
Plus jeune.
Et donc, il y a encore un test lisible, compréhensible, mais ce n'est pas l'important de la poésie. L'important, c'est la chose la plus importante, c'est la musique qu'on sort en répétant ces phrases.
Per me è anche importante come il creare lo spazio mentale, l'espace mentale, con la voce. E Dunque si può creare questo spazio mentale, questo è il significato, no? Più, non è un significato concreto, ma è piuttosto una
donc,
spazio mentale.
Il dice che se pas, ce che è importante per lui è creare un spazio mentale. C'est-à-dire que ça, c'est plus important que ce qu'on va entendre. Donc, elle parle d'une expérience. C'est Ike Nunc.
Ike Nunc, qui ferait peut-être un petit peu mentir ce que Éric Mangillon nous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire sur le lien intrinsèque entre la poésie sonore et la technologie, et donc et l'enregistrement, à proprement parler. Dans l'exposition au Palais de Tokyo, vous donnez d'ailleurs à voir une grande frise chronologique qui est inscrite au mur et qui part de 35 jusqu'à 2015 et qui va venir tresser à la fois des événements liés à la littérature et à la poésie et à des auteurs, en même temps qu'une histoire de la technologie et de l'évolution technologique dont les poètes vont très largement se nourrir. Hein. Je pense par exemple à, en 35 à l'invention de la bande magnétique par BASF, celle du magnétophone par Aege en 36, celle du vocodeur en 39, les premiers ordinateurs en 43. Tout ça va évidemment être fortement lié à ce que les poètes vont en faire. Et je me demandais, Éric Mangillon, si de là ne venait pas aussi une certaine difficulté pour la poésie sonore à s'inscrire dans une histoire de la poésie, encombrée qu'elle serait par ces questions technologiques, et il faut bien dire qu'elle est encore mal ou peu traitée côté université, mal ou peu traitée par les poètes du livre. Alors même si, bien sûr, il est évident que Heitzig et tous ces gens-là sont largement inscrits dans une histoire de la poésie, mais il y a toujours cette façon d'être à la fois dedans et dehors pour la poésie sonore. Est-ce que pour vous, ça serait lié à ça, ou est-ce qu'au fond, c'est la position même que cherche la poésie sonore, celle d'être dedans et dehors?
Vous avez en partie raison, c'est-à-dire que la poésie sonore a du mal à trouver sa place tout court, mais évidemment, en premier lieu, parce qu'elle est liée aux nouvelles technologies, on a tendance souvent à dire que ce n'est pas de la poésie en tant que telle, plutôt des arts sonores, ou parfois trop formaliste, par son excès d'utilisation des technologies, ce qui est vrai d'ailleurs parfois. C'est vrai que on a beaucoup réfléchi avec Patricio dans le choix des artistes. On n'a pas voulu choisir des artistes où on sentait de la fascination pour l'outil technologique. Il faut quand même qu'il y ait une part de poésie. Et donc ça, c'est évident. Après, il y a beaucoup de confusion. Il n'y a pas que celle-ci. Il y a la confusion avec la poésie phonétique, qui est beaucoup plus historique, qui est liée vraiment aux avant-gardes. Et puis, il y a le fait que certains artistes, effectivement, encore poètes, sont dans une certaine complaisance, justement, vis-à-vis de leurs matériaux, vis-à-vis de leurs techniques, et ne cherchent pas à évoluer. Alors que ce qu'on trouve intéressant avec Patrizio, c'est que, justement, depuis ses inventions des années 40-50, notamment depuis la bande magnétique, qui a apporté un style de son très métallique, puisque la bande magnétique était recouverte de particules d'aluminium, qui faisait qu'il y avait ce son très particulier qui fait le charme de la découverte de la poésie sonore dans les années 50. Mais aujourd'hui, justement, les nouvelles techniques ont évolué, et puis elles se diversifient, alors qu'au départ, c'était encore dans les années 50 comme un cri de révolte. Aujourd'hui, elle va vers des pratiques musicales, et doit en parler via la techno, vers des pratiques politiques, comme Franck va en parler certainement dans quelques minutes, ou d'autres choses, la spatialisation aussi, il y a beaucoup d'artistes, je pense notamment à Rieke Schaeffer, qui est une jeune artiste allemande, qui elle travaille beaucoup ses partitions, non seulement pour être écoutée, mais pour envahir l'espace, avec des techniques contemporaines très précises. D'ailleurs, elle est, cette jeune femme, cette jeune artiste, est conseillère pour Olafur Eliasson, l'artiste si célèbre des constructions. Donc c'est pas innocent.
Oui, je crois aussi que cette ambiguïté, la poésie sonore n'est pas littérature, n'est pas musique, non, c'est une nouvelle forme. Je crois que ça, c'est un début d'un nouvel langage pour les temps contemporains. C'est-à-dire que c'est une recherche d'une voix, l'ambiguïté c'est là, pour l'expression humaine, une nouvelle expression. Il faut trouver quelque chose de nouveau, et là, créer de l'ambiguïté. Alors, c'est pas la littérature, c'est pas musique, qu'est-ce que c'est ? C'est positionnant.
Franck Lebovici, sur cette ambiguïté, sur cette éventuelle menace de formalisme.
Je fais référence à une carte de conversation que j'avais faite avec Heitzig il y a une dizaine d'années, qui était intéressante pour la raison suivante. C'est-à-dire que ce que mettait Heitzig en avant, c'est que la poésie sonore, ce n'est pas de la poésie oralisée. Ce n'est pas du texte qui est mis en musique ou mis en chanson. Pour lui, et c'est une définition restrictive qu'il donnait, la poésie devient sonore à partir du moment où elle mobilise un appareillage technique qui fait que l'objet qu'on entend ne pourrait pas exister sans cet appareillage. Donc lui, mais c'est donc un courant qu'il définit, ou une position qu'il définit, l'appareillage technique est fondamental et constitutif de la poésie sonore. C'est-à-dire que quand il travaille avec des multipistes, il permet des superpositions de voix qu'on ne pourrait pas obtenir sans ces enregistreurs, ces fameux Revox. Alors, ce qui était intéressant quand il disait ça, c'est que dans les premiers temps, il n'y avait pas vraiment de distinction entre des pratiques comme celle de Steve Reich, qui travaillait avec des cassettes magnétiques, et celle de Heitzig, parce que les circuits institutionnels n'étaient pas existants, n'étaient pas fondés. Et ce qu'il racontait dans cette carte, c'était que l'énorme travail qu'ils ont dû faire, c'est de créer la possibilité de cette circulation des travaux, la création de ces infrastructures. Je vous donne un exemple tout bête. Il enregistre sur son Revox une bande, un poème sonore. Il veut la faire écouter à son copain Giorno, qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Comment il fait ? Eh ben, il faut que Giorno achète le même Revox pour que Heitzig puisse lui envoyer la bande et que l'autre puisse l'écouter. On peut pas, à mon avis, déconnecter l'invention d'un dispositif d'écriture avec le dispositif technique pour lui permettre d'exister. Je disais que c'était une définition restrictive, qui est celle de Heitzig, mais ce qu'elle permet de voir, c'est que d'une part, elle produit un nouveau public, et puis, pour reprendre le titre de l'exposition du Palais de Tokyo, elle libère quelque chose. Et je vais prendre un exemple qui est à l'opposé. Quand vous prenez l'émission de Claude Royer-Journoux sur France Culture, qui s'appelait Poésie ininterrompue, qui se passe dans les années 70, il faut bien voir qu'à l'époque, les poètes du livre ne veulent pas prendre la parole, ne veulent pas s'exprimer à voix haute. Vous prenez la génération précédente comme celle de Henri Michaux, il était hors de question de lire à voix haute son poème. Je ne parle pas de poésie sonore, je parle d'une lecture à voix haute, simplement. Encore plus de la mettre en musique, etc. Ce que permet en fait la poésie sonore, c'est pas simplement de fabriquer de la poésie sonore, c'est qu'à partir de la mise en place de ces circuits, tout d'un coup les poètes se mettent à lire leur poésie.
Est-ce que ça veut dire que ça donne un corps au poète, brusquement ? Qui dit poésie sonore dit voix, donc on a le sentiment, effectivement, ou poésie verticale ou poésie debout, enfin, on l'appelle comme on veut, on a le sentiment que ça donne un corps au poète, mais paradoxalement, la technologie aussi éloigne ce corps.
Ou fait partie du corps.
C'est-à-dire que c'est le contemporanéité. C'est la contemporanéité. On part toujours de la un corps avec la machine, non, qui se mélange. Donc ça, c'est le début de cette histoire.
Est-ce que le fait de pouvoir travailler avec un micro, c'est-à-dire de pouvoir amplifier des phénomènes vocaux qu'on n'entendrait pas sans ça, vous avez l'impression que ça enlève quelque chose du corps ou ça permet d'accéder à des parties du corps qu'on n'aurait pas accès
à ? Disons que ça fait une sorte de poète augmenté, quelque chose
tout
comme
à
ça.
Fait, ouais.
Comme on a au moins prononcer une bonne douzaine de fois le nom de Bernard Heitzig depuis qu'on a démarré cette émission. Et c'est vrai qu'il prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans l'histoire de la poésie sonore. On l'écoute.
Qui je suis ? En une minute. Enfin, c'est impossible. Ou presque. Bon. Bon. Après tout, pourquoi pas ? Alors, dans ces conditions, je crois que le mieux est d'utiliser les éléments que j'ai sur moi. Voyons. Je ne sais pas. Mon permis de conduire, par exemple, qui a été délivré en mai 47 par la préfecture de la Marne et qui porte le numéro 83596. Ah. Ma carte d'immatriculation à la Sécurité sociale. F1 28 11 75 117 088 10 221. Ma carte nationale d'identité aussi, bien sûr. qui, elle, a été délivrée par la préfecture de police, direction de la police générale, 3e bureau, son numéro 5 400 833. Quoi d'autre? Peut-être aussi ma dernière fiche de paye qui comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 15.
C'était qui je suis. Une minute. Biopsie 8.
Oh, vraiment, c'est trop. Vous n'auriez pas dû, vous ne devriez pas, d'autant plus que j'ai dépassé une minute. Ce qui revient à dire, avril 1967.
Bernard Hetzik, donc, qui je suis, 1967, qui je suis en une minute, donc, et un peu plus, hein, l'un des 75 poèmes que l'on peut entendre dans l'exposition au Palais de Tokyo, ou même emporter avec soi en téléchargeant l'application de l'exposition, hein, pour les visiteurs. Peut-être d'abord une question sur le dispositif en place au Palais de Tokyo qu'on peut voir, c'est-à-dire une salle d'écoute, une grande salle d'écoute avec une source sonore au centre de cette salle qui diffuse de façon aléatoire l'ensemble de ces poèmes, indiquant à chaque fois évidemment le poème, le poète et la date du poème. Et puis autour de cette source, de cette sorte de matrice sonore, une sorte de mobilier circulaire, d'assises circulaires, comme des ondes en fait, des cercles hein, autour de ce haut-parleur sur lequel s'appuyer pour écouter en étant, non pas dans une situation inconfortable, mais en tout cas en étant à demi debout, ou en tout cas debout, hein, en faisant référence notamment à la fameuse poésie Debout de Bernard Hetzik. Quelles sont les premières questions qui se posent à deux commissaires, Éric Mangion et Patricio Peterlini, lorsqu'il s'agit d'exposer de la poésie sonore?
On a décidé cette installation de l'onde, de la source, à réfléchir. Parce qu'on voulait quelque chose de très immersif. C'est-à-dire qu'il doit être une expérience. Non. Et c'est pour ça que c'est pas très confortable.
C'est pas inconfortable non plus.
Oui,
mais ça nous maintient debout.
Ouais. On maintient debout, voilà. Donc on va pas là s'asseoir, écouter la musique dans le sofa.
On fait
voilà.
Pas la sieste.
Voilà. Ouais, c'est pas la sieste. Et ça c'est fondamental. Parce que c'est la vibration sonore qui arrive sur le corps. Il faut avoir cette ourde, si tu veux, et on a réfléchi sur ça. Donc, je crois qu'Eric peut dire.
Oui, ça fait ça, c'est-à-dire qu'on a conçu vraiment cette exposition comme une exposition entièrement, uniquement, quasiment sonore. Et le dispositif qu'on a imaginé et conçu vient aussi du fait que l'exposition se tient dans une ancienne salle de cinéma, que le Palais de Tokyo appelle la salle 37, et qui a une acoustique parfaite. Donc en fait, ça a été assez simple. Il y a un son qui jaillit du sol, qui entoure l'espace, qui fait le tour de la salle de manière très simple, avec très très peu de moyens. Et ce dispositif, plus qu'une exposition, c'est vraiment un dispositif au-delà d'une exposition, est conçu comme une onde, comme vous le disiez si bien, qui se propage en fait. Alors, qui commence à se propager à l'intérieur de la salle, puisque le son tournoie dans l'espace même, qui sort de la salle, un petit peu dans les murs du Palais de Tokyo, et puis qui devient une fréquence. Cette fréquence se formalise par la chronologie dont vous parlez, et puis qui, au-delà de ces deux petits espaces du Palais de Tokyo, sort du Palais de Tokyo, non pas avec le son qui continue, mais avec une application en fait, que nous avons fait produire et réaliser, qui contient quasiment l'ensemble des pièces sonores qui est téléchargeable totalement gratuite.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farid.
Vous parliez de fréquence, Éric Mangion, effectivement, avec cette représentation graphique de la chronologie. Alors, il n'y a pas que la chronologie, il y a également une espèce de très très grand panneau de tissage hein, qui se trouve au centre de l'exposition, qu'on retrouve aussi dans l'affiche de l'exposition qui a été réalisée par Annette Lenz, dans lequel on retrouve ce motif, ces motifs, ces jeux autour des motifs de la fréquence et le titre de l'exposition. Et peut-être faudrait-il rappeler que la plupart de ces sons sont issus d'une collection en particulier, dont vous êtes le représentant ici, Patricio Peterlini, qui est la collection Luigi Bonotto, qui lui-même est donc un grand collectionneur de poésie sonore, mais qui est à la tête d'une fabrique de tissus, ce qui explique notamment le tissage. Mais je me demandais si, malgré tout, il n'y avait pas un lien à chercher entre cette technique du tissage, à proprement parler, et au fond, tout ce que vous disiez jusque-là sur ce qu'est la poésie sonore.
Oui, il y a une référence à l'écollage, si on veut, et à la intreccio, je ne sais pas comment dire en français ça,
le tressage.
Oui, le tressage des mots et des paroles, des sons, bien sûr, et notamment le réseau. C'est très important ça, c'est-à-dire enlacer des relations par tout le monde. Ça, c'est fondamental pour toute la poésie d'avant-garde, notamment pour la poésie sonore, qui s'est déroulée avec des contacts dans tout le monde, non, et qui a créé un réseau international, que c'est très important à souligner. Ça.
Alors cette collection dont on parle, elle a été initiée au début des années 70, hein, dans la foulée de Fluxus, et on y entend notamment ça. C'est très bref, c'est Robert Filliou, l'artiste et poète, la figure de Fluxus, imitant le chant d'un oiseau, on est en 79. Pourquoi choisir cet enregistrement-là, Éric Mangion ?
Pourquoi choisir ? Parce qu'en fait, Filliou n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, un artiste poète sonore à temps plein. Mais par contre, comme vous le disiez, il a fait partie d'un mouvement fondamental, Fluxus, qui a permis effectivement à de nombreux poètes de s'exprimer et à faire une poésie autrement. Et de manière totalement internationale, puisque Fluxus est né en Europe, s'est développé aux États-Unis, a rebondi un petit peu partout dans le monde. Et Fluxus, pour la poésie sonore, a joué un rôle essentiel de propagateur de cette forme de poésie qui était très liée à un cercle restreint, très parisien d'ailleurs, dans les années 50. Et Fluxus, grâce au succès international de ses participants, et du groupe en tant que tel, a permis de démocratiser un petit peu la poésie sonore. Et l'exemple de Filou et cette pièce très simple, très basique sur le sufflet et l'imitation des oiseaux participe à ce processus de démocratisation de la poésie avec une forme totalement différente, qui est très légère, très, très fine. Et ça, ça a été très important pour nous aussi avec Patrizio, de ne pas choisir des artistes qui répétaient les grognements du passé, et de plutôt, dans la partie contemporaine en tout cas de la poésie sonore, de privilégier cette légèreté de la texture, des sons, ne pas tomber dans l'autocomplaisance et l'emphase, ou ce que vous disiez tout à l'heure aussi, dans l'excès de formalisme. Et là on est à l'inverse, et c'est un très bon choix d'avoir diffusé ce petit morceau.
Je vous remercie. Pourrait y figurer également, et figure d'ailleurs, hein, en tout cas sur dans l'exposition, la pièce de Franck Lebovici qui touche encore alors à d'autres questions, notamment une toute autre question qu'on n'a pas évoquée encore ici, qui est celle de la durée. Ça tombe assez mal parce qu'on va en diffuser un très court extrait, mais on l'écoute.
Senate, Wednesday, June 12, 1935. Legislative day of Monday, May 12, 1935. The Senate met at 12 o'clock meridian on the expiration of the recess. Mr. Copeland from the Committee on Commerce, to which referred the following bills, reported them each without amendment and submitted reports thereon. Mr. McCarran, Mr.
Alors, ce qu'on entend, c'est encore plus bref hein, que ce qu'on entend si on emporte l'exposition avec soi dans l'application. Donc, c'est un extrait de Filibuster, donc non, alors dans l'application et dans l'exposition, l'extrait dure 4 minutes. Je ne sais pas combien de temps dure, un peu plus d'une heure, hein, le poème à proprement parler. Bon, je vais peut-être vous laisser nous expliquer en fait de quoi il retourne, Franck Lebovici.
Alors c'est une pièce qui s'appelle effectivement Filibuster, qui est lue ici par la poétesse américaine Vanessa Place à l'occasion d'une exposition au Jeu de Paume en 2013. Un filibuster, c'est une technique d'obstruction parlementaire qui existe aux États-Unis, en particulier au Sénat américain.
Dont on a parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs.
Dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, qui permet aux sénateurs, à tous les sénateurs, de poser deux questions avant le vote d'une loi. Alors ils n'ont que deux questions à pouvoir poser, mais nulle part n'est écrit la durée que ces questions doivent avoir. Alors, ça a été mis en place à la fin du 19e siècle. Au début, les sénateurs étaient des gens raisonnables, ils posaient des questions relativement brèves. Puis petit à petit, ils ont compris qu'ils pouvaient étendre les questions, puisque tant qu'ils n'avaient pas fini de poser leurs questions, on ne pouvait pas voter la loi. Donc les questions se sont mises à durer 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure, deux heures, trois heures, cinq heures, dix heures, le record étant de 75 heures. C'est donc une façon de considérer le langage un petit peu comme de la bourre, puisqu'il faut simplement tenir pour reculer, repousser le vote de la loi. Alors, comment on fait pour tenir 75 heures? Eh bien, on lit l'annuaire téléphonique de Manhattan, la Constitution, la Bible, les œuvres complètes de Victor Hugo, des recettes de cuisine, etc. La seule chose qui est interdite, c'est de s'asseoir. Et ça, ce sont les démocrates qui ont fait passer cela parce qu'ils considéraient que les républicains étaient un peu plus âgés et qu'ils auraient des difficultés à tenir, et d'aller faire pipi. Donc, vous avez comme exemple, il y a quelques années, un sénateur qui a dû s'arrêter en avouant qu'il n'aurait jamais pensé qu'il devrait s'arrêter pour cette raison, mais c'était un besoin physique qui le contraignait. Ce qui est intéressant dans cela, c'est que vous apercevez que les sénateurs sont en permanence en train d'indexer leur propre situation, c'est-à-dire qu'ils ne cessent de décrire la situation de performance. Ils disent, il est 2h du matin, nous sommes maintenant 15 personnes dans le Sénat, attention, il ne faut pas qu'on tombe en dessous du quorum minimum, sinon ça annule le filibuster.
En fait, ils ne cessent de décrire la durée, en fait.
Exactement, c'est pour ça que le sous-titre de cette pièce est A Duration Piece, une pièce de durée.
Alors, de durée, alors nous, si on n'a pas le droit de s'asseoir non plus totalement dans l'exposition, mais disons qu'on peut tenir, si on se tient sur ce petit mobilier, il y a plus de 5h20 d'écoute, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises. Ce travail-là, Franck Lebovici, met à jour aussi un autre des enjeux de la poésie sonore, qui est donc effectivement la question du temps et de la durée, qui vient croiser plus spécifiquement le champ de la musique, hein, qui est aussi celui qui vous préoccupe. En premier lieu, ça passe par cette figure-ci. Note de Morton Feldman, Piano Piece, on est en 52, interprété par Stephen Osborne. Un choix vôtre, Franck Lebovici, un choix musical. On aurait pu choisir Cage aussi, ou même Cathy Berberian et sa fameuse Stripsody à partir d'onomatopées prélevées dans les comics. Sans remettre à la musique, hein, pour établir une possible direction de la poésie, c'était pour vous, Franck Lebovici, produire quel discours sur la poésie? Ou dit autrement, quelle pourrait être la leçon de Feldman pour vous?
Il y a deux choses qui me retiennent chez Feldman. La première chose, c'est le rapport, du moins dans ses débuts, à la partition graphique.
Ce qui nous ramène à Cage.
Ce qui nous ramène à Cage, qui nous ramène à toute une tradition qui considère que la partition graphique est un système de notation concurrent au solfège traditionnel. Et si on suit la réflexion de quelqu'un comme Cornelius Cardew, ces gens-là considèrent qu'en fait, si on change le système de notation de la musique, non seulement on produit des objets musicaux différents, mais on change le public aussi. C'est-à-dire que le solfège fonctionne un peu comme du latin, c'est une barrière à l'entrée. Et beaucoup de gens ne rentrent pas dans la musique parce qu'ils considèrent qu'ils ne savent pas lire la musique, ce n'est pas pour eux. Sauf que pour ces compositeurs, si on développe des systèmes de notation alternatifs, c'est-à-dire que n'importe qui peut lire, parce qu'ils sont fondés sur des conventions qu'on peut soi-même choisir, eh bien, la musique retrouve sa dimension d'activité presque anthropologique, qui fait que tout le monde peut en faire d'une certaine façon. Et les partitions graphiques, eh bien, sont faites d'abord et avant tout pour les non-musiciens, parce que les musiciens chevronnés n'ont pas plus d'outils, du moins au départ, que des gens qui n'ont jamais fait de musique dans cette lecture. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième chose qui est très belle chez Feldman, et ça, c'est plutôt le Feldman de la fin, c'est que lorsqu'il fait des pièces très très longues, comme Palais de Marie, ce qu'il veut éviter, c'est la répétition de patterns, de structures. Vous savez, un petit motif, un chorus, etc. Mais c'est le développement organique de formes où on ne sait pas ce que ça va donner à l'avance. C'est ouvert et les choses se fabriquent en se faisant.
Alors c'est un peu ce qui est à l'œuvre également dans, merci pour la transition, dans De l'amour, hein, le livre qui paraît tout juste aux éditions Jean Boite, hein, qui est un drôle d'objet collecteur, disons, en quatre moments, hein, de quatre natures et registres différents, c'est-à-dire une série de prélèvements dans un chat ou un forum qui débriefe un site de rencontre, hein, donc c'est comme une espèce de petit journal où les gens viennent à raconter ce qui s'est passé, la réussite ou l'échec de la rencontre ou du rendez-vous, et puis la reproduction de dialogues sur Tinder, alors que l'application déraille et change le sexe des interlocuteurs sans que les uns et les autres en soient avertis. Et puis une partition, on en revient, une partition graphique, hein, une partition transcrivant une sextape, à savoir ses respirations, ses souffles, et puis quelques menus mots quand même d'encouragement, ça et là. Et puis une correspondance d'un genre dialogue de sourd, hein, qui vous voit répondre au spam, hein, de ces spams très progressivement en tout cas, sexualisé et improbablement écrit par de ravissantes jeunes femmes en général en quête de visa ou de numéro de carte bleue. De l'amour, ça s'appelle cet ouvrage en quatre temps, en quatre chants. Qu'est-ce qu'il reste de celui de Stendhal, hein, parce que j'imagine qu'il y fait référence, hein, ce titre.
La cristallisation.
Ce qu'il faut peut-être souligner, c'est que ce livre-là, Franck Lebovici, prend place dans la collection Uncreative Writings des éditions Jean Boite, qui emprunte son titre au concept du poète et critique Kenneth Goldschmidt, écriture sans écriture. J'imagine que vous vous y reconnaissez particulièrement. Hein, tout ce que je viens de citer, ce sont à chaque fois des emprunts, des prélèvements, même s'ils sont parfois recadrés ou réorganisés, en tout cas, ce sont des prélèvements d'écriture préexistantes. Quels en seraient les enjeux pour vous ?
Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat sur l'uncreative writing.
Parce sur que à qui appartient le langage, hein, sinon sur, on n'a pas fini.
Voilà, et puis même sur l'étiquette, parce qu'elle donne lieu à des débats qui ne sont pas l'endroit ici. Je dirais que pour moi, l'enjeu, c'est de proposer une redéfinition de l'écriture. C'est-à-dire que jusqu'à présent, enfin je dis ça l'est un peu énorme comme enjeu, mais
c'est énorme.
Beaucoup plus modestement, on peut considérer que écrire ne se résume pas aujourd'hui à produire ses propres phrases, mais qu'on peut élargir en fait l'échelle en considérant que tout ce qui relève de la collecte, de l'organisation, de la mise en circulation, de la conversion de format, relève en fait aussi d'une procédure d'écriture. De la même façon qu'au cinéma, on n'est pas choqué quand des réalisateurs vous disent que le moment important pour eux, c'est le montage et pas l'enregistrement d'images avec la caméra. Eh bien, et ça c'est très clair aussi en poésie sonore, le moment d'écriture n'est pas forcément dans la production de l'énoncé, il peut se trouver ailleurs.
Il peut se trouver avant, et c'est-à-dire trouver le bon terrain, comme vous dites.
Exactement, trouver le bon terrain, trouver le bon système de prélèvement, parce qu'évidemment, on ne montre pas, on ne transporte pas l'intégralité, le bon système de notation, le bon système de traduction, le bon système de circulation, le bon système de publicisation, parce que on a parfois de l'écrit qu'on veut rendre de façon orale, on a parfois de l'oral qu'on veut rendre par écrit, de l'image qu'on veut rendre en son. Et donc ce sont des opérations de traduction qui permettent de faire ressortir des dimensions qui nous semblent importantes dans le matériau. Et c'est ces choix-là qui sont déterminants.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre alors dans ces opérations-là, qui au fond sont des opérations, ce qui nous ramène encore à, disons, corpus conceptuel, donc encore aux arts plastiques, mais dans ces opérations blanches, d'une certaine façon, qui consisteraient à ne pas rajouter.
C'est-à-dire que c'est une conception du matériau c'est une conception qui considère le matériau comme extrêmement riche et maltraité. C'est-à-dire qu'on va trop vite sur ces matériaux, on n'a pas ralenti suffisamment, on n'a pas pris suffisamment de temps pour les examiner, pour les observer. Et pour ça, on a besoin d'outils d'écriture. J'utilise le mot écriture de façon très large, d'outils qui viennent des arts, que ça soit visuel, sonore, textuel, pour pouvoir apprécier et comprendre la richesse de ces matériaux. Donc c'est une forme de respect vis-à-vis du matériau.
Alors ce matériau, par exemple, pour ce qui est de l'amour, je parlais de cette vidéo, de cette sextape, qui est une vidéo pornographique, dont vous avez transcrit, ou je ne sais pas comment on dit, annoté les sons, c'est-à-dire les respirations, les bruits, les souffles, les quelques vagues vocables. En résulte donc un poème à regarder, comme un texte, presque encodé, ou une partition à lire, pour ceux qui savent, à entendre ou à interpréter. Et ça donne ça. Alors, ce qu'on entend, c'est explicite, ma foi. C'est donc une interprétation ou une lecture de cette transcription de la vidéo dont on parlait à l'instant. Qu'est-ce qui se joue dans cette transcription, puis interprétation?
Alors, je précise, c'est une version non mixée. Elle sort à peine de l'enregistrement.
Toute fraîche.
Par deux sopranos, Cécile Rive et Marie-Laure Frinzy. Enregistré par le compositeur Grégoire Lorieux. Et ce qui se joue là, c'est un problème en fait qui dépasse largement le monde de la musique et de la poésie, qui est celui de la notation de tout ce qui relève de l'infraverbal. On ne sait pas noter l'infraverbal, c'est-à-dire les rires, les larmes, les souffles, les respirations. On peut faire des enregistrements avec des spectrogrammes, mais on ne sait pas le noter. En musique contemporaine, on peut donner des instructions très générales aux chanteurs. En ethnomusicologie, quand on veut noter les chants de pygmées, on bricole une notation. En linguistique, il y a une sous-branche qui s'appelle l'analyse conversationnelle, qui a développé une notation pour pouvoir décrire les interactions qui se jouent entre les gens au-delà en fait, du discours. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est que quand je me suis rendu compte qu'on ne savait pas noter ces phénomènes infraverbaux, qui font écho là à toute une branche de la poésie sonore dont on parlait au début, eh bien je me suis dit, ça c'est quand même un travail pour la poésie d'arriver à fabriquer ces notations-là. Donc j'ai bricolé quelque chose en m'inspirant essentiellement de l'analyse conversationnelle, mais en rajoutant des symboles qui viennent de la musique ou de l'ethnomusicologie, avec cette idée que si on était capable de noter ces matériaux-là, on pourrait en apprendre quelque chose. Et en tout cas, pour moi, ça a été le cas, puisque ce qu'il est apparu au cours de la notation, c'est que, alors vous allez me dire, c'est évident une fois que je le dis, mais ça ne l'était pas avant, c'est que les gens communiquent sans parole, et quand ils sont dans le noir, sans les regards, uniquement avec des souffles et des respirations. C'est-à-dire que deux partenaires vont développer un langage commun pour pouvoir se coordonner et avancer dans ce qu'on appellerait une partie de sexe, grâce à des souffles et des respirations.
Franck Lebovici, vous parliez de bon terrain, hein, qui fait partie au fond de l'écriture, hein, dans une définition étendue de l'écriture, ça serait la recherche du bon terrain. Donc là, vous vous en êtes limité à la transformation des relations amoureuses, et puis aussi des nouveaux textes que ça produit, que les relations amoureuses, que les rencontres amoureuses ou sexuelles produisent aujourd'hui.
Et pardon de vous interrompre, mais c'était dur à trouver, hein, parce que d'abord, je vais vous dire pourquoi, il fallait pas une sextape de professionnels.
C'est ça, acteurs. Il fallait qu'elle soit. Pourquoi fallait-il d'ailleurs que ce soit une vidéo amateur?
Parce que si c'est des professionnels, ils vont faire des bruits qu'ils pensent devoir être les bruits qu'on fait quand on fait du sexe. Donc on était tout de suite dans du théâtre. Ensuite, il fallait que ça soit amateur. Ensuite, les gens enregistrent ça au téléphone portable, vous voyez. Il fallait que le téléphone soit pas trop loin pour que je puisse entendre les respirations. Parce que s'il est à l'autre bout de la chambre, on n'entend rien. Bref, il y a toute une série de critères qui fait que je ne pouvais pas choisir n'importe quelle vidéo.
Vous avez été obligé de passer un temps infini sur ces vidéos.
J'ai eu un mal fou à trouver la bonne vidéo.
J'imagine. Alors vous parlez, que ce soit pour la vidéo ou pour les autres séquences qui se trouvent dans les livres, hein, je pense notamment à ces chats qui viennent débriefer les rendez-vous organisés sur des sites de rencontres. Vous parlez de ce matériau comme un matériau qui pourrait tout aussi bien être collecté par un ethnologue, par un sociologue, par un linguiste. Qu'est-ce que ça veut dire alors que ce matériau collecté en poète, hein? Qu'est-ce que ça voudrait dire que l'écoute ou le prélèvement par le poète?
Je dirais, c'est peut-être une sensibilité au potentiel du matériau. J'ai l'impression, mais je veux pas trop m'avancer, que en fait, dans notre champ ou dans notre domaine, on développe une sensibilité au potentiel de certains matériaux. On a cette liberté qui est peut-être plus menacée, je dirais, dans le champ académique, parce que le champ académique doit répondre lorsqu'il lance des projets de recherche à des formats assez restrictifs. Ils doivent faire des dossiers pour avoir des financements, ils doivent s'inscrire dans une méthodologie particulière. On n'a pas ces contraintes en poésie. Donc, on peut, d'une certaine façon, papillonner et être plus disponible que dans un milieu professionnel.
Éric Mangeon.
Oui, il y a un exemple, moi, je trouve, pour entrer dans la conversation absolument incroyable, c'est un livre qui est écrit il y a une centaine d'années par Charles Resnikoff, qui s'appelle Témoignage, et qui est un livre de pure poésie, et en même temps un témoignage extraordinaire de la fin de tribunaux, en fait, à la fin du 19e siècle, puisqu'il a collecté pendant des années et des années des comptes rendus, des procès-verbaux de procès divers et multiples aux États-Unis, et il a réduit le champ lexical pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire au témoignage pur, en évacuant tout le langage administratif, politique habituel. Et il en a fait un formidable témoignage d'une société, en l'occurrence la société américaine, et en même temps un livre de poésie totalement libre, avec une forme absolument incroyable.
Ça ne vous étonnera pas de savoir que Resnikoff a grande importance pour Franck Lebovici.
Ben oui, c'est pour ça que j'en parle. Pour Franck Lebovici, pour ce type de poésie, effectivement, qui part du réel pour faire œuvre de poésie.
Peut-être juste une dernière question, puisqu'il s'agissait d'évaluer ou d'être sensible à ce matériau en poète. Si on se met deux minutes dans la peau du presque sociologue, par rapport à toute cette matière que vous avez travaillée, que vous avez réorganisée, que vous avez lue, autour des relations amoureuses, ou en tout cas des nouvelles relations amoureuses, qu'est-ce qu'il en est ressorti au fond? Et je pense en particulier à la production de textes, hein, à proprement parler, quand vous disiez justement qu'on ne prend pas le temps de regarder ou de lire toutes ces productions-là, qu'est-ce qui en est ressorti pour vous à la lecture de ce que j'imagine être des milliers de pages, hein?
Je dirais
Internet.
Que j'ai beaucoup appris, et c'est en fait ce qui motive ce genre de pratique. C'est-à-dire que vous avez tout d'un coup accès à des matériaux dont vous ignoriez même que de tels matériaux pouvaient exister. Et quand vous tombez dessus, eh bien vous devant la masse à laquelle vous vous confrontez, vous vous noyez. Et il faut apprendre à naviguer. Et pour naviguer, il faut que, le problème, c'est que vous devez fabriquer votre propre bateau. Il n'existe pas, a priori. Et donc, vous vous retrouvez un peu comme un éternel étudiant, parce que vous découvrez. Et c'est ce qui motive, je dirais, ce genre de pratique, d'essayer de rendre compte de ce que vous avez trouvé.
Ouais, qu'est-ce que vous avez trouvé, alors, justement ? Quant à ce matériau, à proprement parler, je pense surtout à la toute première séquence du livre.
Je dirais qu'il y a d'abord la première chose qui m'a frappé, c'était un écart générationnel très fort. Ce sont des gens, je dirais, qui ont entre 18 et 25 ans, et les modes de relation n'ont aucun rapport avec ce que j'ai connu. Je suis de 75, donc j'ai une quarantaine d'années. Ça a été la découverte d'un autre monde. J'ai eu l'impression d'être, si vous voulez, dans une sorte de film de Harmony Korine qui se passerait en France. Donc il y a quelque chose, effectivement, comme vous le disiez, de quasiment sociologique. Avec un mélange de rapports très brutaux et très fleur bleue simultanément. C'est-à-dire que les gens peuvent aller très très vite dans les contacts physiques et puis conserver des idéaux des années 50, on dirait. Et ça, ce sont des hybridations qui moi, me sont totalement étrangères. Donc c'est sous cet angle-là que j'apprenais... ça m'a permis une mise à jour des façons de faire aujourd'hui.
Ah, moi aussi. Éric Mangion, Patrizio Peterlini, Franck Lebovici, Edouard Escoffette, c'est la fin de cette émission, ou presque, hein, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, excellent après-midi à toutes et à tous.
Quanat bet, quanat bet. Quan et veig ara, quan et veig ara, quan et veig cos i cos, quan et veig cos i cos, quan et veig tu, la casa, el pes, quan no et veig tu, la casa, el pes, quan et veig i plou, quan et veig i plou, quan et veig les coses que em dius, quan et veig les coses que em dius, quan et veig a fon el mot en la pedra a la porta, quan et veig a fon el mot en la pedra a la porta, quan et veig i quan no et veig, quan no et veig i quan et veig, quan et veig, quan et veig i moro, quan et veig, quan no et veig, quan et veig i moro, quan et veig fet i fet, quan no et veig res, quan et veig cos i cos, quan et veig cos i cos, quan et veig ara, quan et veig ara, quan et veig i plou, quan et veig i plou, quan et veig les coses que em dius, quan et veig les coses que em dius, quan et veig tu la casa al pes, quan et veig tu la casa al pes, quan et veig a fon el mot en la pedra a la porta, quan et veig a fon el mot en la pedra a la porta, quan et veig i moro, quan et veig, quan no et veig, quan et veig i moro, quan et veig, quan et veig fet i fet, quan no et veig res, quan et veig aquesta llum que sense llum dona voltes, quan et veig aquesta llum que sense llum dona voltes, quan et veig i clau, quan et veig i clau la rosa.
Merci, Eduard.
La compagnie des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit, aujourd'hui à la technique Alain Joubert et comme toujours Thierry Beauchamp à la préparation et François Connac à la réalisation. Vous trouverez toutes les actualités d'Éric Mangion, Patrizio Peterlini, Franck Lebovici et Edouard Escoffette et le détail de la journée de performance prévue au Palais de Tokyo le 27 avril prochain sur le site de l'émission à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction, mais tout de suite, c'est l'heure, comme c'est bien, de la méthode scientifique par Nicolas Martin.